Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Figurez-vous que je viens de tomber sur l'histoire du vélo. Oui, oui. Eh bien, puisque le monde commence à devenir écologique, autant se pencher sur l'histoire du vélo. Alors voici l'article en question qui est extrait du Petit Journal du 5 juillet 1868. 68, ça a toujours été une bonne année. Alors, daté de la veille, samedi 4 juillet 1868, l'histoire du vélocipède. C'était la fureur du moment. C'est le point d'arrêt de la voie publique. C'est la préoccupation des cochers et le souci des piétons. On en rencontre au bois, sur les boulevards, dans les rues. Il faut bien en parler. Comme d'un signe des temps, comme d'une manifestation des goûts et des sympathies de la foule. Le vélocipède est à la mode. Pour ceux des lecteurs qui ont la chance de vivre à la campagne, loin du bruit des grandes villes, au milieu des églantiers qui sentent bon sans l'aide du parfumeur et des oiseaux qui chantent sans le son du conservatoire, il importe que je dise ici ce qu'est un vélocipède. C'est une légère machine à deux roues, grande comme le cheval de bois qui amuse les petits-enfants. Les talons actifs du cavalier font aller la monture mécanique, comme les talons armés d'éperons font marcher une monture vivante. Les deux pieds trépignent, les roues obéissent à ce mouvement continuel de la jambe et du jarret. La machine roule. Et les bras conduisent, comme un gouvernail, la mécanique à leur portée, nécessaire au changement de direction. Armand Gouffet, un chansonnier du commencement de ce siècle, aimait fort la locomotion facile. Toutefois, il trouvait étonnant que les pauvres n'eussent pas d'équipage de leur vivant. Et en épicurien que l'inconnu n'effraie pas, il raillait le corbillard, ce carrosse qui à Paris est accordé aux plus indigents. Je me souviens d'une de ses chansons, dont voici un couplet significatif. En voiture, nos bons aïeux se plaisaient, mais du reste, chez eux, quand on fermait les yeux, on était plus modeste. Nous n'avons pas, vous le voyez, leur ton ni leur allure. Nous mettons les vivants à pied et les morts en voiture. Si le bon Armand Gouffet, qui trouvait à faire applaudir ses chansons, même au temps des grands succès de Béranger, s'il vivait encore, il supprimerait son couplet narquois.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette.
On peut aller en voiture sans posséder un cheval, sans payer le loyer d'une écurie, sans se préoccuper le moins du monde du prix de la paille et de l'avoine, sans avoir un compte ouvert chez le maréchal Ferrand ou chez le sellier harnacheur. On a pour faire du chemin qu'à monter sur un vélocipède. Je n'ai point à faire ici le panégyrique du cheval à quatre pieds, hennissant, vivant, ferré et trottant dru, que j'estime sur tous les points, hormis comme rôti. Pline, Homère, Virgile, Buffon, Voltaire ont passé en signe de caresse la barbe de leurs plumes éloquentes sur sa crinière. J'ai trouvé dans les observations militaires de Boussanel qu'en 1757, un cheval hors d'âge, très beau et du plus grand feu, ayant eu tout à coup les dents usées au point de ne pouvoir plus mâcher le foin et broyer son avoine, fut nourri pendant 2 mois et l'eût été davantage si on l'eût gardé par les 2 chevaux de droite et de gauche qui mangeaient avec lui. Ces 2 chevaux tiraient du râtelier du foin qu'il mâchait et le jetaient ensuite devant leur vieux camarade. Ils en usaient de même pour l'avoine qu'ils broyaient, bien menue, et mettaient ensuite devant lui. Toute une compagnie a été témoin de ce fait. Je me souviens d'ailleurs de cet épigramme qui courut jadis les écuries de Paris. « J'ai perdu dans un jour fatal mon cocher, mon cheval, ma belle. Mon cocher me servait fort mal, ma maîtresse était infidèle. » J'ai grand regret de mon cheval. Je n'ai pas à faire, après ces exemples, l'apologie du cheval, mais je n'ai pas dû passer sous silence ses bonnes qualités, même en face du vélocipède qui tend à lui faire concurrence. J'aurais compris le vélocipède au temps où le roi Henri IV écrivait à l'un de ses favoris. Je ne puis vous envoyer aujourd'hui mon carrosse, comme je vous l'ai promis, attendu que ma femme veut s'en servir. Alors, les véhicules étaient rares. La compagnie des petites voitures n'avait pas ses valeurs cotées en bourse. Catherine de Médicis fut la première en France qui eut une voiture. Quelque temps après, Diane, duchesse d'Angoulême, eut aussi son carrosse. Et Christophe de Thou, ayant été fait premier président du Parlement de Paris, eut également son équipage. Parce qu'il avait la goutte, ce fut le 3e carrosse connu en France. Au jour des litières et des chaises à porteurs, j'eus compris le vélocipède et son influence sur la Saint-Barthélemy, ou la journée des dupes. De nos jours, avec l'omnibus américain qui traîne sur des rails de fer 40 voyageurs à la fois, le vélocipède ne sera, comme le ballon captif de l'hippodrome, qu'un joujou de plus dans les mains des grands enfants. Il est évident que le vélocipède a sur le cheval un avantage marqué. On ne le mangera pas. Je reçois à l'instant une brochure signée L.A. Bourguin, président honoraire de la Société protectrice des animaux. Ce document atteste que les nouvelles boucheries de viande de cheval ont consommé 542 kg en 1867. Le vélocipède est en bois et en fer. Quelque ingénieux que soit un philanthrope, il ne trouvera jamais le moyen de nous le faire manger. Le vélocipède a ses détracteurs. On soutient qu'il est fort difficile de l'arrêter court devant un obstacle, de lui faire gravir une montée ou effectuer une descente. Les uns affirment qu'il n'est pas toujours fort prudent de courir les rues de Paris sur ce dada d'un nouveau genre. Les autres soutiennent que le vélocipède ne marche bien que sur les routes planes, douces, unies, macadamisées. Il existe enfin des médecins qui soutiennent que cet exercice continuel des jambes, imprimant aux roues une impulsion par leur mouvement non interrompu, n'est pas très sain. Dans la marche, tout le corps humain est en locomotion. En même temps que la jambe fonctionne, que le pied s'échauffant sur le sol subit par ce contact incessant une sorte de synapisme naturel qui dégage la tête et ramène le sang du cerveau à nos extrémités, En même temps, aussi, les bras flottent, le corps suit l'impulsion générale, les fonctions se diversifient en se multipliant. Le vélocipède, qui fatigue les jambes, laisse le corps inerte et oblige le pied à un mouvement monotone et toujours le même, qui fatigue une partie de la machine humaine en laissant les autres parties dans une dangereuse immobilité. Il y a aussi quelques dangers à courir, comme dit le Figaro jeudi soir. Un jeune homme qui voulait prendre un boc devant une brasserie tout en restant sur son vélocipède est tombé de son véhicule et s'est brisé la jambe en deux endroits. Comme on le voit, ce n'est pas encore là le triomphe définitif de la mécanique. Cela n'empêche pas le vélocipède d'avoir atteint en quelques semaines une sérieuse popularité. Une grande lutte de vitesse va s'engager à Castres entre un sportman et un amateur de vélocipède. Les deux coureurs, l'un en voiture, l'autre sur son véhicule à deux roues, doivent parcourir la distance de Castres à Toulouse, soit environ 72 km. Le prix de la course, montant d'un pari, est, dit-on, assez élevé. C'est jeudi prochain qu'aura lieu l'épreuve solennelle.
Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes.
Il y a mieux. Le dimanche 31 mai dernier, il a été établi à Saint-Cloud une course de vélocipède, avec l'agrément et le patronage des autorités locales, ainsi que l'a constaté le petit journal du 1er juin. C'était l'imitation complète des courses de Vincennes, de Chantilly ou du Bois de Boulogne. Les monteurs de vélocipèdes étaient habillés en jockey. La piste était établie dans la grande allée du parc, depuis le bassin jusqu'à la grille. Il y avait la tribune du jury et la ville de Saint-Cloud avait institué 4 prix au profit des vainqueurs, 4 médailles en or, en argent, en vermeil, sur chacune desquelles on lisait « Ville de Saint-Cloud, première course de vélocipède, 31 mai 1868 ». L'organisation était la même que pour les courses de chevaux, avec cette différence toutefois que les coureurs étaient debout derrière leur vélocipède et qu'au signal donné, ils sautaient en selle. Heureux si du même coup leurs mains saisissaient le gouvernail et leurs pieds rencontraient les points d'appui des appareils rotatoires. Je ne voudrais pas que l'on me prît pour un ennemi du progrès, parce que je préfère la viande de bœuf à la viande de cheval. Et le véhicule à 4 roues, attelé d'un coursier doux et vigilant, au vélocipède plus ou moins bien articulé. Mais enfin, je ne me fais pas à l'idée de voir Hugo, Lamartine, Augier, Autran, Viennet, Banville, Copé, Daudet, les poètes jeunes et vieux, enfourcher un vélocipède au lieu de monter le cheval ailé du Parnasse sous prétexte que Pégase est un cheval qui porte nos grands hommes à l'hôpital. Et je ne m'habituerai jamais à l'idée d'entendre le Richard III de Shakespeare s'écrier dans son ardeur belliqueuse « Un vélocipède, mon royaume pour un vélocipède !» À la vérité, je regrette quelque peu les jours héroïques, les époques glorieuses, tant peut-être surannées, mais vaillamment édifiants, des tournois et des chevaliers. Avant eux, le cheval de bois, que la guerre de Troie n'avait pas mis à la mode, existait néanmoins. C'était un instrument de torture, un cheval dont le dos était aussi aigu que le tranchant d'une lame fine. Les chrétiens de la primitive église l'ont rendu illustre en y montant le sourire aux lèvres, le feu de la foi dans les yeux pour subir le martyre. Mais ceux qui voulaient aller vite et bien au temps des Rolands et des Bayards montaient sur le noble animal qui partage à la guerre les dangers de son maître. Des écuyers menaient par la bride les montures de bataille, c'est-à-dire les quadrupèdes les plus forts et de la taille la plus élevée. Ils les donnaient à leur valeureux patron dès que l'ennemi paraissait. C'était alors ce qu'on appelle monter sur ses grands chevaux. Nous monterions tous sur nos grands chevaux, comme nos aïeux, s'il fallait défendre la famille, le sol, le drapeau. Mais pour cette héroïque besogne, n'en déplaise à ses inventeurs, nous ne prendrons pas le vélocipède. Et c'est signé Timothée Trimain. Voilà, j'espère vous avoir un peu amusé.
Quand le soleil à l'horizon profilé sur tous les buissons, nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Et puis nous allons passer à d'autres nouvelles, à des vieilles nouvelles. Nous sommes à Contre-Histoire. Merci de votre écoute. Île de Rapa Nui, vers 1200 jusqu'en 1888. En 1866, un navire jeta l'ancre à l'île de Pâques, avec à son bord deux missionnaires qui étaient malheureusement accompagnés par un ancien trafiquant d'armes, tueur psychopathe, nommé Jean-Baptiste Dutroux-Bornier. En moins de 12 ans, celui-ci allait se proclamer roi, éliminer la plus grande partie de la population et transformer toute l'île en ferme d'élevage de moutons. Chez les autochtones de Rapa Nui, les mythes des origines évoquent un être primitif appelé Makemake qui ne réussit à s'accoupler ni avec une citrouille ni avec une pierre, mais eut plus de chance avec une motte de terre, de laquelle sortit un être humain. La datation au carbone 14 et l'analyse de l'ADN mitochondrial suggérèrent une origine polynésienne plus récente des Rapa Nui, qui semble avoir débarqué sur l'île il y a environ 8 siècles. Ces premiers colons se seraient vite divisés en deux clans guerriers, les Tuhu à l'ouest et les Oto Itu à l'est. Alors, j'ai une carte où on définit l'île de Rapa Nui, plus connue sur le nom d'île de Pâques. Population 12 000 habitants au plus fort du peuplement. pas de capitale en tant que telle, mais Angaroa, dans la baie principale. Le langage est le Rapa Nui. Cause du décès de l'île de Rapa Nui. Un mélange de rats, de maladies, d'inconséquences et de damnés européens. Cette île fait aujourd'hui partie du Chili. Parmi les guerriers dont on vient de parler, chaque clan érigea ses propres moai, ces fameuses sculptures représentant des têtes de géants, et fit de son mieux pour ruiner les efforts de l'ennemi. Même quand ils sont coincés au milieu de l'océan, les humains trouvent toujours le moyen de se disputer avec environ 50% de leurs voisins sur un sujet inepte. Par ailleurs, ils sont aussi doués pour détruire leur environnement, ce que les Rapa Nui démontrèrent avec succès. Ils abattirent les arbres à un rythme prodigieux. Ils auraient pu limiter la casse s'ils n'avaient accidentellement importé des rats de Polynésie sur l'île. Les rongeurs dévorèrent toutes les noix qui auraient pu donner naissance à de nouveaux cocotiers du Chili. L'herbe remplaça le bois comme combustible. La population déclina, les oiseaux de mer disparurent et l'Éden se désertifia. Toutefois, certaines recherches archéologiques récentes suggèrent que les Rapa Nui se seraient mieux débrouillés qu'on ne l'avait supposé avant l'arrivée des Européens. Mais cette époque se révéla relativement dorée comparé à ce qui allait suivre. Au XIXe siècle, des trafiquants d'esclaves venus du Pérou s'en prirent aux insulaires et capturèrent la moitié de la population. La tuberculose et la petite vérole s'ajoutèrent au malheur des Rapa Nui et les Britanniques chipèrent deux statues sacrées. Puis déboulèrent les deux missionnaires avec leur capitaine, le certain Dutroux Bornier. Animé d'un zèle mégalomaniaque, celui-ci entreprit de semer la terreur. Il commença par s'essayer au trafic d'esclaves, lui aussi. Puis il se mit à acheter l'île, fragment par fragment, et y hissa son propre drapeau. Il kidnappa plusieurs femmes et choisit l'une d'elles, Coreto, comme épouse. Sur les actes de vente des terres qu'il s'appropriait, la dame était désignée comme la reine de l'île de Pâques. Lorsque les deux missionnaires tentèrent de l'arrêter, il les attaqua. Les insulaires envoyèrent une lettre à l'évêque de Tahiti pour lui demander d'intervenir. C'était la première fois qu'il sollicitait une aide extérieure. L'évêque pria la marine française de s'en mêler. Mais celle-ci ne se dérangea pas. Les missionnaires s'enfuirent avec autant d'insulaires qu'ils purent sur leur bateau. Dutroux Bornier se mit alors à bâtir sa ferme d'élevage de moutons. Les derniers Rapa Nui présents prirent finalement les choses en main. Un petit groupe tendit une embuscade au despote et le tua. Mais le mal était déjà fait. L'événement qui aurait soi-disant mené au meurtre de Dutroux Bornier serait une dispute au sujet de la piètre qualité de l'une des robes de la reine Coreto. Au moment de sa mort, il ne restait plus que 110 habitants sur l'île, dont 26 femmes. Peu après, le Chili, un pays distant de plus de 3200 km sans un seul habitant polynésien, le Chili décida de revendiquer ses droits douteux sur les lieux. Il usa d'un vieux truc contractuel, la version chilienne du traité qui fut signé stipule que Rapa Nui deviendrait une partie du territoire du Chili, alors que celle des insulaires ne présente le Chili que comme un ami de l'île. Thank you. Et puis, on va voir la République de Salo. Le 25 juillet 1943, Benito Mussolini avait rendez-vous avec le roi d'Italie, Victor Emmanuel III. D'ordinaire, le souverain écoutait poliment le journaliste, métamorphosé en homme fort du fascisme, faire son rapport d'un air pompeux. Ce jour-là, Mussolini fut interrompu. Le monarque l'informa que la guerre était perdue, que le moral de la nation était au plus bas et qu'il était devenu le type le plus détesté du pays. La police poussa le Duce dans une ambulance, puis l'assigna à résidence. Nous étions le 25 juillet 1943. Les réactions dans le pays ne se firent pas attendre. Certains se réjouirent, d'autres crièrent à la trahison. La plupart en avaient tout simplement assez de cette terrible guerre et espéraient que cette assignation à résidence en hâterait la fin. Mais le gouvernement tergiversa, craignant les deux camps. Quand l'Italie finit par signer l'armistice, le nouveau Premier ministre résuma succinctement la situation à l'occasion d'une réunion de son cabinet.
« Siamo fottuti !» lâcha-t-il. « Nous sommes foutus !»
L'armée, déjà en déroute, attendait des ordres, qui ne vinrent jamais. Au sud, dans les villes comme Naples, toujours prêtes à en découdre, les nazis furent chassés par une résistance féroce. Mais dans le nord, ce fut une autre histoire. Là, les troupes allemandes déferlèrent, faisant prisonniers 1 million d'Italiens au passage. Elles se retranchèrent dans la chaîne des Apennins, coupant la botte italienne en deux. Des commandos SS évacuèrent Mussolini de la station de ski où il était retenu captif. Contre toute attente, Benito se retrouva en charge d'une nouvelle république. Tous les pays s'appuient sur la croyance, ou du moins sur la suspension de la faculté de douter. Ils ont besoin d'une raison d'exister basée sur une histoire, un peuple, un langage, un adversaire commun, ou le plus souvent sur un mélange de tout ça maladroitement agencé. L'Italie avait passé les 20 dernières années à se prendre beaucoup trop au sérieux, bien que ce ne fût ni la première ni la dernière nation à tomber de haut après s'être enivrée de sa propre mythologie. Le Duce était passé maître dans l'art d'invoquer la gloire de l'Empire romain et de Garibaldi pour attiser l'orgueil national. C'est ce qu'il tenta de nouveau de faire, sans grande conviction, avec la République de Salo. Mais il est difficile de se convaincre et de convaincre les autres que l'on est une réincarnation trapue de César, coiffé d'un joli feutre, lorsqu'on reçoit tous ses ordres d'un Autrichien vociférant à quelques centaines de kilomètres de là. L'État fantoche aurait été ridicule s'il n'avait pas été aussi sinistre. La pénurie de rations alimentaires sévissait. L'approvisionnement en gaz et en électricité était quasiment inexistant. Des gamins griffonnaient plaintivement le mot « pain » en italien sur les murs, et tous les chats disparaissaient mystérieusement. Mussolini était de plus en plus amer et déprimé. Après l'avoir rencontré, un conscrit nota dans son journal. Il est laid. Son visage est couvert des taches pourpres, symptomatiques des troubles du foie. Il est tout dégonflé, maigre. L'homme qui avait inventé les opérations de com viril, effectuées torse nu, avait disparu depuis longtemps. Lorsque les Alliés percèrent la ligne de défense fortifiée des Apennins, nombre de leurs ennemis essayèrent de fuir par le nord. Les Allemands furent autorisés à battre en retraite, mais pas les Italiens. Mussolini écrivit une lettre touchante à sa femme, puis tenta de prendre le large avec sa maîtresse.
Des partisans le trouvèrent caché sous une couverture dans le fond d'un camion, vêtu d'un manteau de soldat allemand. Déguisement insuffisant pour un visage ayant été affiché sur de gigantesques bannières pendant 2 décennies. Ils le fusillèrent à la mitraillette et suspendirent son corps par les pieds dans une station essence. Ce qui fait de Mussolini l'un des rares monstres à avoir reçu ce qu'il méritait. De nos jours, la tombe du Duce reçoit la visite d'environ 100 000 adorateurs par an. Oui. En 2018, Alessandra Mussolini, députée européenne, a menacé de poursuivre en justice quiconque publierait des commentaires irrespectueux sur son calamiteux et probablement syphilitique grand-père.
Ces vacanciers de guerre, créateurs de misère, ces porteurs de virus que la médecine innocente. Ces étoiles de gangrène, déguisées en sauveurs, qui contaminent l'espace de leurs rayons de merde, qui se déguisent en touristes, aux mains blanches, au cœur tendre, nous les laisser pour quand ils viennent nous baiser en douce. Touristes aux mains blanches, touriste en vacances, tu parles de mon pays, tu parles de paradis. Mais paradis pour qui? Le paradis des uns, ça fait l'enfer des autres, et les autres c'est qui? Ceux qui bâtissent leur taudis avec les restes de tes manoirs, qui osent montrer leur misère noire et déparer des paradis. Étonnés de nous trouver là, tellement chez nous ça devient chez vous, nous domestiques dans vos villas, nous jardiniers dans vos jardins. Touriste dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières. Pas surprenant que l'exotisme les attire. C'est répugnant ce que ces visites nous apportent. Les Bahamas, Porto Rico et puis mon île. Les bases militaires, ça et là, font la parade. Les mains du touriste yankee jamais ne donnent. Ça descend dans notre pays avec sa haine. En ingénieur, en advisor pour faire le change, pour faire rire le statu quo qu'ils imaginent. Touriste aux mains blanches, touriste en vacances, là dans tes champs de canne à sucre, pousse tes enseignes de la mort et nos bras sus à bêcher l'or pour engraisser tes coffres forts. Étonné de nous trouver là, tellement chez nous ça devient chez vous, nous domestiques dans vos villas, nous jardiniers dans vos jardins. Touriste dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières.
Je vous ai déjà parlé du royaume du Dahomey. Moi, ça me plaît cette histoire. J'espère que vous aussi. Le Dahomey, l'histoire qui commence vers 600, et celle que je vais vous lire se termine en 1904. Le mythe grec des Amazones était censé être un conte édifiant, un avertissement contre la remise en cause du statu quo patriarcal. Voyez ce qui leur est arrivé, elles ont disparu. Voilà ce que ça rapporte de renverser les rôles et de ne pas s'en tenir aux normes de genre. Passe-moi ce papyrus. Socrate, Il faut que j'écrive une pièce furibarde sur ces incapables de progressistes. On dispose d'une version plus récente et plus réelle des Amazones. Le royaume du Dahomey, qui était situé dans l'ouest de l'Afrique, était en effet unique en ce qu'il s'enorgueillissait de son armée, composée en grande partie de femmes. Les origines de ces guerrières, ou mères, ainsi qu'elles s'appelaient elles-mêmes, ces origines sont discutées. Comme nombre d'éléments de l'histoire africaine, ce que l'on en sait a été filtré par les récits de visiteurs racistes, misogynes ou vicieux, voire le plus souvent une charmante combinaison des trois. Il est peu probable que les Amazones originelles de la mythologie aient existé, même si les fouilles archéologiques récentes en Russie ont révélé qu'elles auraient pu être des guerrières, scythes. Dans l'un des récits, le roi du Dahomey loue les mérites de ses épouses, après une chasse à l'éléphant couronnée de succès, et elle de lui répondre « Nous préférerions une bonne chasse à l'homme. » Dans un autre, il est question d'une armée décimée que l'on avait étoffée avec des femmes pour la faire paraître plus imposante, recrues qui s'avérèrent bien plus redoutables que les soldats. Ce qui n'est pas contesté, c'est qu'au XVIIIe siècle, ces guerrières étaient des milliers, aussi féroces que terrifiantes. Et si le besoin s'en faisait sentir, elles étaient capables de dépecer une vache en moins de temps qu'il n'en faut à un abattoir européen, selon un observateur français. Leur rude formation militaire était typique d'un pays qui semble avoir pris un malin plaisir à se rendre la vie difficile. Les femmes devaient courir à travers de gros buissons d'épines d'acacia de 5 cm de long. Après quoi, elle devait mimer un combat, ce qui devait être agaçant, comme tous les mimes. Puis elle se ruait à travers un autre buisson d'épines, simplement pour marquer le coup. Afin de les récompenser d'avoir terminé le parcours, on leur remettait une ceinture. Ça peut paraître sympathique, mais il y avait un hic. Ces ceintures étaient faites d'un tas d'épines supplémentaires. Pour finir, les guerrières devaient s'exercer à l'insensibilité en jetant des flopées de prisonniers du haut d'un mur élevé. Un visiteur snob critiqua leur manière de tenir leur mousquet vintage d'importation au niveau de la hanche, passant ainsi à côté du fait que c'est la manière la plus stylée de se servir de son mousquet vintage d'importation. Sans doute vaut-il la peine de préciser que le Dahomey n'était pas complètement une nation proto-féministe. Les dernières conscrites de force, dont certaines n'avaient que 8 ans, étaient techniquement toutes mariées au roi. Et leur fonction principale, la fonction de tous les pays en réalité, était de favoriser un commerce des esclaves en plein essor. Chaque année, le Dahomey partait ainsi en guerre sous un prétexte futile, en général une insulte imaginaire adressée à la mère du roi. Ceci dans le but de capturer et de vendre des êtres humains la marchandise la plus prisée à l'époque. La Sparte noire, comme on vint à surnommer le Dahomey en Angleterre, fit vivre un véritable enfer à ses voisins pendant plus d'un siècle et demi. Mais elle finit par se heurter à un obstacle, la colonisation française et ses mitrailleuses. La plupart des Amazones furent massacrées au cours d'une série de batailles sanglantes dans la dernière décennie du XIXe siècle. Toutefois, quelques guerrières réussirent à échapper à la mort. Elles se firent passer pour des femmes ordinaires du Dahomey, se laissèrent asservir par des soldats français et leur tranchèrent la gorge dans leur sommeil.
Ces vacanciers de guerre, créateurs de misère, ces porteurs de virus que la médecine innocente. Ces étoiles de gangrène déguisées en sauveurs qui contaminent l'espace de leurs rayons de merde, qui se déguisent en touristes aux mains blanches, au cœur tendre, nous les laisser pour quand ils viennent nous baiser en douce. Touristes aux mains blanches, touristes en vacances, tu parles de mon pays, tu parles de paradis. Mais paradis pour qui? Le paradis des uns, ça fait l'enfer des autres, et les autres c'est qui? Ceux qui bâtissent leur taudis avec les restes de tes manoirs, qui osent montrer leur misère noire et déparer des paradis. Étonnés de nous trouver là, tellement chez nous ça devient chez vous, nous domestiques dans vos villas, nous jardiniers dans vos jardins. Touristes dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières. Pas surprenant que l'exotisme les attire, c'est répugnant ce que ces visites nous apportent. Les Bahamas, Porto Rico et puis mon île, les bases militaires ça et là font la parade. Les mains du touriste yankee jamais ne donnent sa descendant notre pays avec sa haine. En ingénieur, en advisor pour faire le change, pour faire rayer le statu quo qu'ils imaginent. Touristes aux mains blanches, touristes en vacances, là dans tes champs de canne à sucre, pousse tes enseignes de la mort et nos bras sus à bêcher l'or pour engraisser tes coffres forts. Étonnés de nous trouver là, tellement chez nous ça devient chez vous, nous domestiques dans vos villas, nous jardiniers dans vos jardins. Touristes dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières.
Et la République de Venise, si on allait y faire un tour. Histoire de la Sérénissime de 697 à 1797. En 2018, quatre étudiants japonais déjeunèrent dans un restaurant de Venise. L'addition se monta à 1100 euros. Quand l'histoire commença à circuler, les autorités vénitiennes gaulèrent une grosse amende au restaurateur pour s'assurer que cela n'arriverait plus jamais. 6 mois plus tard, un café du voisinage défraya la chronique quand un touriste s'y vit réclamer 43 euros pour 2 expressos et 1 verre d'eau. Une réaction plus honnête aurait été de hausser les épaules et de renvoyer les mécontents à la longue et glorieuse histoire de la cité des doges. Ça fait quand même 1000 ans en matière d'escroquerie. Je t'ai écrit de Venise, mais le louable amour du gain qui brûle d'une chaleur zélée dans la poitrine de tout Italien a poussé le gérant de l'hôtel à me faire payer l'affranchissement de la lettre et à la jeter au feu avec plusieurs autres. Ainsi Mary Shelley se plaignait-elle d'avoir été plumée au XIXe siècle. Imposer des tarifs exorbitants est ce qui fit de Venise la plus puissante république maritime du monde. Voilà la recette. Tout commença par du sel. Lorsque la production de leur saline s'effondra, les Vénitiens durent se mettre à en importer.
La cité payait bien. Les marchands locaux s'empressèrent donc de prendre la mer pour en trouver. À leur retour, ayant aussi rapporté divers produits exotiques, ils s'aperçurent vite qu'ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent en jouant les intermédiaires, en achetant bon marché en Orient et en vendant au prix fort en Occident, et vice-versa, plutôt que de produire des marchandises eux-mêmes. Là où d'autres pays se laissaient distraire par des conflits religieux et ethniques, la Sérénissime République de Venise ne se souciait que du prix, développant ainsi une forme de capitalisme à l'état pur. Bien entendu, cet amour du profit allait de pair avec un penchant sinistre, la croyance répandue dans les sorcières et les mauvais sorts. L'un d'eux consistait à voler une mèche de cheveux de la personne visée, à l'enrouler autour d'un scorpion et à enterrer le tout dans le sable. La mort du scorpion entraînait alors celle de la victime. Les vers de Murano, une production locale, devinrent populaires en partie parce que les gens s'imaginaient qu'ils tremblaient ou même se brisaient si l'on versait du poison dedans. Les Vénitiens arnaquaient leurs concurrents, créèrent plusieurs des premières banques et furent les premiers à vendre du café en Europe. Les prêteurs sur gage, bannis presque partout en Europe, pouvaient opérer dans la ville en toute impunité. Le chef de l'État, le doge, avait tous les attributs spirituels habituels, mais était en pratique le patron de la SARL Venise, présidant d'un conseil d'administration constitué d'aristocrates. Une flotte marchande de 1500 navires aida cette entreprise en forme de pays à s'étendre progressivement jusqu'en Istrie, en Dalmatie, en Crète, à Chypre. Pour l'essentiel, la République ne se développa pas grâce à ses conquêtes, mais profita de la confiance qu'elle inspirait. Les contrats de la cité étaient plus dignes de foi et les réseaux de la Sérénissime plus étendus que ceux de la concurrence. Quand la République avait le choix, elle préférait conserver des relations amicales avec un voisin, ce qui lui permettait de lui vider les poches plus facilement. Sa neutralité calculée, qui favorisait tant ses affaires, finit par se retourner contre elle. Quand la cité tenta de rester en bons termes commerciaux avec l'Autriche et son ennemi coriace, la France napoléonienne, elle ne parvint qu'à irriter les deux camps.
Thank you.
La marine de guerre de Venise ne disposant plus que de 11 vaisseaux à cette époque, le général Bonaparte l'attaqua sans rencontrer d'opposition. Paniqué, le doge abdiqua et la République fut dépecée par les Français et les Autrichiens. La SARL Venise tomba victime d'une OPA. Voilà, contre-histoire s'achève pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.